Bonjour et bienvenue sur le podcast de Bienheureusement. Aujourd'hui, nous allons retrouver la très inspirante Marie-Elia qui va nous faire découvrir les lettres hébraïques.
Bonjour Marie-Elia.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette interview pour Bienheureusement. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Alors, me présenter, c'est pas un exercice si facile parce que ça fait un peu étiquette et c'est vrai que j'aime pas trop ça, mais en même temps, je comprends le but du jeu. Je suis connue, en fait, entre guillemets, parce que j'ai vécu une expérience avec les lettres hébraïques il y a une vingtaine d'années et qui ont donné un livre et puis un tarot. Et voilà, mais en fait, l'enseignement des lettres touche tous les domaines de la vie et c'est vrai que du coup, ça a complètement changé ma vie en profondeur. Et depuis 20 ans, ça n'a pas cessé d'évoluer. Donc voilà, donc en fait, c'est très difficile pour moi de me définir. Je suis juste un être humain qui a reçu ce cadeau et j'essaye de le partager au mieux. Voilà.
Alors, effectivement, tu as écrit un livre au tout départ, c'est le rencontre, enfin les rencontres avec la splendeur, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, je savais pas au départ que ça donnerait un livre parce que j'ai reçu cet enseignement sous forme d'un conte que je vivais. Et donc, je me suis laissée aller à écrire. Et en fait, je me considère parfois comme plus la première lectrice que... Je suis l'auteur, hein, je ne le renie pas, mais disons que j'ai été fécondée par quelque chose qui me dépasse.
D'accord.
Et voilà, et on était un petit groupe d'amis se retrouver régulièrement. Et je leur lisais à chaque fois ce que j'avais reçu. Et ça déclenchait beaucoup de choses. Et c'était à l'origine de cette aventure. Mais au départ, c'était pas pour en faire un livre, c'était pour le partager avec des amis, voilà.
D'accord. Et comment les lettres hébraïques se sont imposées à toi?
En fait, c'était vraiment une surprise parce que je n'ai pas été élevée dans la tradition juive. Et on a eu l'intuition d'aller avec quelques amis, avec mes parents, suivre des cours de kabbale par curiosité.
D'accord.
Et ça a déclenché quelque chose, voilà. Donc, je me souviens même plus ce qu'il y a vraiment dans ces cours, mais ça a déclenché la rencontre. Et du coup, je pouvais même pas dormir, il fallait que j'écrive, et j'avais le sentiment que les lettres me parlaient, et j'étais baignée d'amour, et je comprenais rien à ce qui m'arrivait, parce que pour moi, c'était de l'hébreu. Et voilà, ça a donné ce cadeau exigeant parce que c'est venu quand même bousculer beaucoup de choses en même temps. Voilà.
Alors justement, c'est quoi la kabbale en fin de compte? Parce que ça paraît très très mystérieux et mystique. On sait que Madonna suivait des cours de kabbale, mais c'est quoi en fin de compte? Parce que ça a l'air mystérieux.
Alors la kabbale, c'est l'ésotérisme de la tradition juive. L'ésotérisme, c'est quelque chose secret qui est caché par rapport à l'exotérisme qui est ce que l'on donne à tout le monde. Donc pour accéder à la kabbale, ce sont des textes, par exemple le Zohar, c'est un commentaire de la Torah, donc de l'Ancien Testament. Et puis il y a les lettres hébraïques, il y a l'arbre des Séphirot. Enfin voilà, il y a différentes notions dans la kabbale qui sont donné par voie orale depuis très très longtemps dans la tradition juive et qui aujourd'hui se révèle beaucoup plus volontiers. Alors il y a un peu de tout derrière ce mot. Par honnêteté, au fond, je ne dis même pas que je suis kabbaliste. Comme ça, je dirais je suis tranquille entre guillemets, et parce que par exemple pour moi il y a une dimension christique dans les lettres et ça évidemment les rabbins ne voient pas de la même façon.
D'accord. Ok. Et parce que du coup tu la religion n'interfère pas avec le travail que tu as.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai été amenée en fait à l'approcher après par curiosité et puis j'ai été amenée à partager des Shabbats, des fêtes juives et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce qu'il y a des chants, il y a une grande ferveur, il y a quelque chose que je trouve magnifique, mais qui ne correspond pas à mon chemin. Donc, je suis pas du tout dans la religion parce que je trouve des nourritures autant dans certains aspects du bouddhisme, du soufisme, de l'Inde, de voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un enseignement universel.
D'accord. Et donc, comment se sont imposées ces lettres? Est-ce qu'il y a eu un rythme particulier?
Alors, le rythme au départ était donné par ces cours de Kabbale qui étaient une fois par semaine. C'était une lettre différente. Mm-hmm. Mais après, je n'ai pas pu suivre ce rythme parce que les lettres restaient beaucoup plus longtemps avec moi. Donc, je ne pouvais pas aborder la suivante. Et donc, j'ai laissé tomber les cours. Donc, le rythme a été au départ, tu veux dire au départ quand j'ai reçu cet enseignement, ça dépend des lettres. Certaines sont venues en 15 jours. Après, je pouvais passer à la suivante. Et avec certaines, je devais rester plusieurs mois parce qu'elles sont venues nous chercher vraiment en profondeur, jusqu'au plan physique. Hein. On sentait D'accord. vraiment que le corps était travaillé aussi. Et donc, il m'a fallu à peu près 2 ans et demi pour faire l'ensemble du voyage.
D'accord. Et comment tu en es venue là, en fin de compte? Quel était ton parcours auparavant?
Alors, mon parcours, en fait, je suis tombée dans une marmite un peu particulière parce que ma mère, elle recevait des messages.
D'accord.
Mais en fait, voilà, c'est à double tranchant aussi. Oui. Mais nous avons été amenés à aller dans beaucoup d'endroits et par la suite, j'ai exploré énormément de choses, mm-hmm. Tant des traditions orientales qu'occidentales. Et je comprenais pas pourquoi je n'y trouvais pas ma place, mais à chaque fois, c'était quand même un enrichissement. Et j'ai mieux compris après parce que je crois que si je n'avais pas été guidée dans tout ce parcours, je n'aurais pas pu peut-être comprendre vraiment l'enseignement des lettres qui est venu par la suite et qui est venu vraiment me surprendre complètement. Mmh. On m'aurait dit ça quelque temps auparavant que j'écrirais un livre sur les lettres hébraïques, je l'aurais pas cru parce que je ne les ai pas étudiées réellement.
D'accord.
Voilà.
Donc du coup, tu as reçu des messages, tu as été guidée, tu as eu une forme de guidance en fin de compte, c'est ça?
Alors disons qu'au moment de l'écriture du livre, mm-hmm. c'est un état particulier, c'est difficile à décrire, mais je me sentais immergée dans une lumière, dans un état particulier qui était très très fort, mm-hmm. et l'histoire du voyageur a été écrite d'un jet, je peux dire. Le moment le plus fort, c'était les prières. Et oui. Je me souvenais bien qu'au moment des prières, elles ont été écrites aussi d'un jet, parce que je crois que le temps qu'il m'a fallu pour les écrire, c'était tellement fort, j'aurais pas pu rester plus longtemps, j'avais tout le corps qui tremblait. Mais faut dire que c'était il y a 20 ans, depuis je ne suis plus la même non plus, et je pense qu'elles viennent avec beaucoup plus d'intensité, se révèlent davantage aujourd'hui, même que ce que j'ai rencontré il y a 20 ans. Mais déjà pour moi, il y a 20 ans, c'était un peu à la limite. Et heureusement qu'il y avait un groupe qui était là, un groupe d'amis, qui, je pense que ça a aidé pour intégrer l'énergie, parce que elles sont étonnamment puissantes quand même. Et de baigner dans l'énergie d'une lettre, c'est très fort. Et encore une fois, pour le corps, beaucoup.
Oui.
Voilà, ça vient remuer en profondeur.
D'accord. C'est vrai que ces lettres, elles sont assez magnifiques. Le tarot en lui-même est magnifique et rayonne énormément. Qui a peint et a réalisé justement ces lettres?
Alors les peintures, c'était moi également quand j'ai reçu cet enseignement. À un moment donné, quand j'étais avec la lettre, à un moment donné, je la voyais. Et ça je pouvais pas l'inventer parce que il y a certaines lettres, je pensais qu'elles seraient d'une certaine couleur et parfois c'était pas la couleur que j'aurais pu croire au départ. Et puis quand je la voyais, j'essayais de saisir, de les peindre avec de la gouache tout simplement. Mmh. Et c'était un moment très fort aussi. La peinture de la lettre, ça fait partie des moments très très forts. Là aussi, j'étais dans un état particulier. Et parce que la lettre, en fait, est au-delà de l'image. Hein. Elle est au-delà même de la forme, du son. Ce qu'elle est vraiment est au-delà. Donc, en fait, il y avait comme une magie qui me dépassait, hein, et qui, au moment de la peinture, je sentais qu'il se passait quelque chose sur le papier et que, à un moment donné, tac, ça y est, la lettre était inscrite. Voilà. Je peux donner une anecdote si tu veux. Tiens, c'est quelque chose, je me souviens pas en avoir parlé, mais ça me revient là, puisque ça me replonge dans cette époque. Quand j'ai appris les lettres au début, il y avait une lettre qui était prononcée Yud, la lettre que j'appelle Yod en fait, là où j'ai appris l'hébreu, enfin les lettres en tout cas, je parle pas couramment hébreu, il disait Yud. Alors quand j'ai peint la lettre, je l'ai appelée et j'ai peint Yud. Et il y avait une énergie, c'était quelque chose de fort, c'était un moment fort, mais ça collait pas et je pouvais pas, il y a un truc qui collait pas et après la prière ne venait pas. Et je comprenais pas, et j'ai mis du temps, en fait, à explorer et à me dire, je vais essayer Yod, parce que le son ou O, c'est pareil, c'est la même énergie, mais quand même, c'est peut-être pas tout à fait pareil non plus. Et j'ai dû repeindre la lettre. Donc j'ai recommencé, et j'ai fait une autre peinture, qui ressemble visuellement à la première, mais qui là était de l'énergie de Yod, et hop, Yod a pu passer. Voilà, et ça a été très différent. Donc c'était intéressant à vivre ça,
Oui, parce que du coup, tu apportais l'aspect créatif, en plus de ce que tu recevais d'un point de vue message.
C'est... Alors créatif, disons qu'en fait déjà la forme de la lettre, je ne l'ai pas inventée, hein. J'ai repris la lettre de la forme ashkénaze, c'est pas celle qui est utilisée le plus couramment parce qu'elle est un peu compliquée avec ses petites antennes, tout ça. Et j'ai repris cet alphabet parce qu'il est puissant dans l'ombre de forme. Et donc ça j'ai pas créé sauf Tadé, ça c'est un peu un cas à part parce que je l'ai vu en rêve comme ça, mais sinon j'ai respecté la tradition, et puis les couleurs j'ai respecté ce que j'avais vu, et puis voilà, c'était un rayonnement, donc j'ai essayé de me rapprocher au mieux. Voilà, alors est-ce de la créativité, je ne sais pas finalement, mais en tout cas, c'était magique.
C'est-à-dire qu'au-delà du message, tu apportes aussi une autre forme dans les lettres hébraïques. Tu apportes aussi l'aspect de la vision. Tu viens titiller chez celui qui va tirer, en fin de compte, le rayonnement visuel.
Je crois que les peintures, c'est comme une porte d'entrée. Peut nous permettre de rencontrer la lettre qui est au-delà de la forme, comme le son aussi, le nom de la lettre peut être une autre porte d'entrée. D'ailleurs, c'est bien de relier les deux. Mais la lettre avec un grand L est au-delà de la forme et du son. Et une fois qu'on est immergé dans l'énergie de la lettre, on n'a même plus besoin de la forme. Et on a basculé dans une autre dimension.
Alors, il y a des lettres qui sont un peu différentes. Tu vois de quoi je veux parler? Les lettres qui sont avec des lettres finales, je crois.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles sont différentes, celles-ci?
Alors, en fait, l'hébreu, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 6 lettres. Lorsqu'elles sont placées à la fin d'un mot, elles ont une forme différente et donc une valeur numérique différente. Parce qu'il faut savoir que les lettres sont aussi des nombres. Les pages d'un livre en hébreu sont numérotées aussi avec les lettres, tu vois, pas avec les chiffres arabes qu'on connaît. Donc les lettres sont à la fois des nombres et des lettres. Et dans le livre, en fait, je n'ai pas peint les lettres finales parce que il y a 22 lettres, il n'y en a pas 28. Mais c'est au moment du tarot, parce que le tarot est venu par la suite, c'est un peu l'éditeur qui m'a proposé de faire un tarot. Et j'avoue que j'étais un peu réfractaire parce que le tarot, j'étais un peu ignorante, hein, faut dire. Pour moi, tarot, ça résonnait pour moi, tirage de cartes, oracle, c'était pas mon truc en fait, franchement, c'était pas. Donc, pour moi, elles sont tellement sacrées que je ne me voyais pas faire un tarot. Et j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Et je me dis, mais je ne sais pas comment les gens vont l'utiliser. Et je me souviendrai toujours de ce que j'ai ressenti en moi comme réponse. C'est, mais ça, ça ne te regarde pas.
Exact, ouais.
Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, on reprend les mêmes illustrations. Et puis le tarot, c'est pas compliqué. Je vais mettre quelques mots pour décrire la lettre. Et puis voilà. Et en fait, ça a été une autre aventure. Mmh. Elles sont venues d'une façon, je vais pas dire différente, mais un bain d'amour tellement... Parce que si tu veux, dans le livre, les lettres, chaque lettre prépare la suivante. C'est-à-dire que le livre est conseillé de le lire dans l'ordre, même si l'ordre, dans ce cas, c'est de la dernière lettre à la première. Elles se sont présentées comme ça, pour marcher vers Alès, qui est la première lettre et qui est notre identité éternelle. Donc, pour marcher vers cette couronne, toutes les lettres viennent nous préparer, chacune dans un ordre bien précis. Alors que le tarot, lui, il est fait pour un tirage aléatoire. Donc, elles ne viennent pas de la même façon. C'est des mains tendues, c'est un amour qui vient. Donc, il n'y a pas la dimension initiatique du livre de la même façon, mais ça les rend peut-être accessibles tout de suite. Voilà, elles viennent, c'est un tirage, donc après, effectivement, chacun le vit à sa façon. Ouais. Je suis sûre qu'il y a autant de façons de les accueillir que d'individus.
C'est vrai, je crois que tu ne proposes pas en fait de méthode de tirage pour le tarot. Et toi, est-ce que tu t'en sers toi-même et comment est-ce que tu t'en sers,
si tu t'en sers? Oui, je m'en sers. Bah, tu sais, en fait, on me demande souvent comment l'utiliser. Vous mettez les lettres face cachée et puis vous voyez ce qui vient spontanément. Il faut laisser la main aller vers la lettre. Même les yeux fermés, si on préfère, faut pas douter. C'est juste suivant la question du moment, suivant l'état du moment. Et moi, je conseille d'en en tirer qu'une, tout simplement. Parce que parfois, c'est vrai, une deuxième peut... Par exemple, la première va répondre à une question en donnant une direction, et une deuxième peut préciser ce qui va aider pour aller dans ce sens qui est donné par la première lettre.
D'accord.
Mais je crois que il vaut mieux... rester très simple. C'est un enseignement qui est très simple, qui s'adresse au cœur, et une lettre suffit en général.
Et à quel rythme il faudrait pouvoir tirer?
Mais là aussi, il n'y a pas de règle. Parfois, ça peut être le matin pour la journée, ou dès qu'il y a une question. Moi, j'en tire toujours une le jour de mon anniversaire. Voilà, je peux te dire ça, et c'est vrai que ça va pleurer l'année. Je m'en rends compte après, tu vois, ou pour une journée, ou avant un rendez-vous important. Quand on anime des stages aussi, j'en tire une, pour voir que j'en parle pas forcément après, mais pour voir pour moi-même quelle sera la coloration de ce nouveau voyage. C'est quand on en a envie. Et après, on reste avec la lettre le temps que l'on sent, voilà. Faut apprendre à se faire confiance. Nous avons tous de l'intuition, et plus nous sommes simples, et plus on arrive à mettre le mental de côté, et plus les messages sont clairs, en fait.
Effectivement. Alors justement, avec l'accompagnement du tarot, il y a un petit livret qui explique chacune des lettres, parce que c'est vrai que c'est pour celui qui ne connaît pas les lettres hébraïques et la kabbale, c'est pas évident de comprendre sans le livret, sans le support.
Oui.
Et dedans, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la question.
Oui.
La question de la lettre, en fait, que la lettre vient poser. Comment c'est venu ça? Qui parle dans cette question?
C'est la lettre qui parle. C'est vraiment la lettre qui parle. Recevoir l'enseignement de la lettre et se laisser vraiment saisir par l'énergie qui est là, c'est lui faire confiance aussi et se laisser guider par cet amour. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas tout à fait pareil. C'est comme dans le livre, il y a l'histoire et puis il y a les commentaires. Les commentaires, c'est ce que j'ai ajouté, et c'était aussi un chouette moment de les écrire. Mais d'écrire l'histoire du voyageur ou d'écrire le message de la lettre, c'est un état un peu particulier ou qui vient aussi d'un jet comme ça. Et voilà, quoi. Je je pense qu'on peut tous en fait se mettre à l'écoute de cet état-là. Mais pas, j'ai aucun don particulier, hein, c'est venu. Mais...
Ce qu'il y a, c'est que dans les lettres hébraïques, en fait, il y a énormément d'amour.
Oui, oui.
Énormément de compassion, on se sent baigné de lumière, en fait, parce que tu parles beaucoup de lumière.
Oui.
De couronne, de royauté, en fin de compte, de souveraineté.
Et oui, 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 c'est important. C'est très, 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 très important.
En quoi c'est important?
Ah, c'est important parce que ça change tout, parce que nous avons perdu cette souveraineté dans l'humanité. Mmh. Et si j'ai perdu ma souveraineté, eh bien, qui va prendre la place sur le trône? Qui va diriger ma vie? Et nous sommes littéralement, mais conditionnés. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui rend très humble parce que plus je m'aperçois à quel point de tous ces conditionnements depuis la naissance, même déjà dans le ventre de la mère, tout ce qu'on a reçu comme conditionnement, programmation, au fond, quand nous parlons, quand nous marchons, quand nous agissons, mais qui agit? Qui a telle ou telle croyance? Qui est finalement l'être que nous sommes? A très peu de place en fait, et donc il s'agit de lui rendre son trône, de lui rendre sa souveraineté, et ça se fait peu à peu, c'est une alchimie, c'est un engagement intérieur, et ça demande beaucoup, peu à peu, de compréhension, et les lettres nous aident dans ce sens, pour démêler, pour libérer toutes ces empreintes qui sont là depuis tellement longtemps, et au fond nous ne savons pas qui nous sommes sans ces conditionnements, et c'est ça la difficulté, parce que on ne s'en rend pas compte en fait.
Oui, de pouvoir se libérer soi-même de ces conditionnements.
Voilà, et c'est pour ça que retrouver cette royauté, on peut mettre le mot qu'on veut, mais de retrouver en tout cas ça se fait tranquillement, hein. Moi j'ai pas de baguette magique, mais c'est ce cheminement que nous proposent les lettres de Tav à Aleph. Oh, il y a beaucoup de cheminements possibles, mais en tout cas celui-là, je peux attester qu'il est puissant.
Et donc toi, ce cheminement-là, tu l'as accompli en 2 ans?
Alors j'ai reçu l'enseignement des lettres en 2 ans et demi, mais depuis ça a énormément bougé. Hein. Je suis pas du tout la même qu'il y a 20 ans, même il y a 10 ans, 2 ans, comme pour chacun. Hein. C'est évident que les lettres qui viennent aujourd'hui, qu'on vit ensemble dans ces voyages, j'appelle ça un voyage plutôt que stage, pour moi, c'est pas la même dimension que ce que nous vivions il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce que l'époque est différente, parce que les groupes qui se constituent aujourd'hui sont vraiment... Il n'y a plus trop de mental, il y a vraiment l'envie d'y aller, de vivre cette alchimie, de libérer ses mémoires, et du coup les cadeaux sont au rendez-vous avec une intensité qui n'était pas du tout la même il y a encore quelques années, quoi.
Parce que tu sens qu'il y a une transformation parmi
eux. Ah oui.
Ouais.
Ah vraiment, oui, c'est énorme. C'est énorme. Je vois les retours que me donnent les gens, mais parfois il faut un peu de temps. On se rend compte que, par exemple, tiens, avant je réagissais pour telle chose, et là maintenant je me sens plus libre, voilà, où j'en voulais tellement à ma mère, à mon père, et puis maintenant c'est beaucoup plus paisible. On peut pas tricher avec ces choses-là. La première lettre qu'on rencontre sur le chemin du voyageur, c'est Tav, l'étoile de vérité. Donc l'importance première, c'est tout simplement l'envie d'être vrai et sincère et de pas se mentir. Donc quand on appelle Tav, elle vient, hein, si on l'appelle vraiment, elle vient éclairer des choses, c'est pas confortable du tout.
Bien sûr.
Et c'est une quête de vérité finalement.
Complètement. Voilà. Et surtout quand on lit la question, on comprend des choses. Mais si on la relit plusieurs jours plus tard ou un mois plus tard, on comprend encore d'autres choses.
Ouais, il y a encore d'autres choses qui apparaissent, complètement, ouais.
C'est vraiment un message à différents niveaux, en fin de compte, comme si l'ego ne pouvait pas tout ingurgiter d'un seul coup.
Mais non, le pauvre, lui, il a juste à se reposer un petit peu maintenant. Hein. Non, je plaisante, mais c'est la chose la plus difficile. Ouais. Il n'y a juste pas à combattre l'ego, mais à comprendre peu à peu les rouages de notre personnalité, sur quoi elle s'est construite, et de réaliser que libérer un conditionnement, c'est libérer c'est ébranler le socle sur lequel s'est construite notre personnalité. Donc ça peut être vécu comme une forme de mort à quelque chose, pour aller vers quelque chose de complètement différent, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais donc voilà, c'est pas un combat, il y a à mettre beaucoup de tendresse dans tout ça, beaucoup d'humour, hein, c'est très important l'humour. On va pas se prendre au sérieux, on n'est pas là pour ça, mais être vrai, voilà. Être vrai, c'est la base.
Oui. Et alors aujourd'hui tu organises des stages, qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages?
Alors, il y a des thèmes différents, mais je dirais que les thèmes, je les vois un peu comme des prétextes pour... Bon, ils sont respectés, hein, mais je veux dire, chaque stage proposé, c'est un processus alchimique, dans le sens de ce que je te disais. Les lettres sont toujours présentes, même si c'est pas le thème des lettres hébraïques. Par exemple, cet été, il y a les lettres hébraïques, mais après, il y a un stage sur les 10 paroles, c'est les 10 commandements. Et en fait, on les connaît pas bien, et ils proposent une voie d'éveil extraordinaire en 10 étapes, qui permettent de libérer des mémoires profondes, les lignées, des mémoires entre les hommes et les femmes. Ça, c'est quelque chose d'important pour les lettres, dans l'enseignement des lettres, qui permettent de libérer toutes sortes de choses. Mais de toute façon, même pour un même thème, chaque voyage est différent, parce que ça va dépendre du groupe, du moment, du lieu, de l'énergie qui est là. Et puis, je dirais, de la matière première qu'apporte le groupe.
Oui.
Imagine un groupe qui vient un peu en touriste et pour prendre des notes, mais qui se donne pas, bon, il va pas se passer grand chose.
D'accord.
Je peux parler des lettres, je peux dire des choses, mais il va rien se passer. Mais un groupe qui a vraiment envie de libérer, de se transformer, et puis qui joue le jeu, et voilà, il y a plein d'amour qui vient. D'abord, ça crée une belle cohérence, des belles relations, et puis surtout on baigne dans l'énergie des lettres, et donc il y a des choses qui peuvent arriver en groupe qui ne peuvent pas se vivre en individuel, à mon avis. Je crois que l'ère du Verseau, c'est ça, c'est aussi les rassemblements, où on se retrouve, mais pas pour créer des liens psychiques avec toutes les entraves qu'on connaît, mais des liens de cœur, on est comme une cordée, pour gravir la montagne. On est plus fort ensemble.
Oui, c'est ça, on est plus fort ensemble. Et du coup, dans ces stages-là, tu utilises des techniques particulières?
Méditation. C'est l'instant présent. Alors, il y a des méditations guidées. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de méditer, parfois, c'est pas évident de se laisser guider. Et bon, c'est juste laisser guider, c'est juste accueillir. Voir comme ça vient. Et il y a des partages, ça c'est très important pour que chacun exprime ce qu'il a envie de dire, mais pour apporter cette matière première. Et puis il y a de l'enseignement, bien sûr, qui vient, et il y a toujours des surprises, parce que je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer.
D'accord.
C'est pas, si tu veux, une technique, un enseignement grand 1, grand 2, petit A. Non, je ne saurais pas faire ça.
D'accord. Ok. Et tu parlais de l'ère du Verseau tout à l'heure. Est-ce que tu sens qu'il y a une transformation? Est-ce que la spiritualité aujourd'hui est plus importante?
En tout cas, ça bouge. Je pense qu'on peut vraiment s'en rendre compte quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Bon, si même d'allumer la télé ou de regarder, ça bouge. C'est difficile. Hein, c'est difficile. Il y a un climat général où il y a quand même beaucoup de peur, de violence. Bon, ça dépend où on habite. Hein, quand on est plongé dans la campagne avec des amis, c'est pas le même contexte quand on vit en banlieue. Mais dans l'ensemble, il y a un climat, on sent que c'est une période particulière. Les énergies sont très fortes, et qui dit beaucoup de lumière dit aussi, ça réveille aussi ce qu'on peut appeler notre ombre, ou tout ce qui est au plus profond de l'inconscient, individuel, mais aussi collectif. Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de difficultés et des gens qui sont pris par des courants de l'inconscient collectif et qui ne comprennent pas ce qu'ils traversent et c'est extrêmement difficile, voilà. Et bien, il y a besoin d'apporter de la compréhension et déjà la compréhension permet de voir comment être roi et reine dans ce qui se vit là et de pas être manipulé parce que c'est vraiment le mot par tous les squatteurs là et toutes les énergies qui n'ont pas leur place en nous. Mais ça demande beaucoup de clarté. On a besoin d'aide pour ça, je pense.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas développer sa spiritualité ou en tout cas qui souhaiterait le faire mais qui n'ose pas y aller?
En fait, je crois qu'au fond de chaque être humain, il y a l'envie d'être bien. C'est très très basique ce que je dis là.
Oui.
Personne n'est maso, je pense. Réellement. Et donc, comme la vie n'est pas toujours confortable, il y a une quête, en principe, chez la plupart des gens, pour aller mieux. Après, on peut voir qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, s'endormir devant la télé, entre guillemets, ou chercher à se distraire, à un moment donné, si jamais forte, ça pousse derrière, quoi, et ça suffira pas. Donc, il y a une quête. Alors, j'emploie pas forcément le mot spirituel, parce que je ne sais pas trop comment il va résonner, et il est mis à beaucoup de sauces, mais disons, il y a une quête quand même d'avancer. Alors, il y a aussi des gens qui sont en dépression, et il y a aussi parfois vraiment une maladie de l'âme qui fait qu'il n'y a même plus cette quête pour avancer. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh. Mais dans l'ensemble, je pense que nous sommes tous dans une quête. Il y a quand même, j'ose le dire, il y a quand même quelque chose qui pousse l'âme et c'est pas confortable parce que ce qui passait avant ne passe plus et du coup il y a un vrai besoin d'une nourriture nouvelle et voilà et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup d'impasses aussi, il faut explorer, il faut ressentir qu'est-ce qui correspond, ne jamais rien croire sur parole. Et donc pour répondre peut-être à ta question, il y a juste à... Je n'ai rien à dire. En fait, il y a juste peut-être à être qui l'on est et peut-être que ça va donner envie à quelqu'un de... Parce que le bonheur existe, parce que c'est possible d'être en paix. Et à un moment donné, peut-être, oui, ça va donner envie de se remettre en question et d'avancer. Mais je me garderai d'y mettre même le mot de spiritualité.
D'accord.
Parce que pour moi... quelqu'un qui veut simplement être vrai, quelle que soit sa démarche, il a envie d'être honnête avec les autres, il a envie de... Eh ben, voilà, c'est... on peut méditer toute la journée et pas bouger d'un pouce, hein.
Oui.
Je crois aussi ça, tu vois. Il y a beaucoup d'étiquettes sur le mot spirituel et finalement, je dirais même pas, tu vois, je dirais même pas que le chemin des lettres hébraïques est un chemin spirituel.
D'accord. Voilà. Tu dirais quoi alors?
C'est un chemin du vivant, de la vie, d'explorer la vie, et un chemin de vérité en tout cas. Quand j'ai vérité, pas du tout dans le sens c'est ma vérité, mais dans le sens de quête de vérité. Voilà. Et après, chacun va vivre à sa façon et va l'intégrer à sa façon pour être mieux, tout simplement, pour être plus en paix. Et à partir du moment où quelqu'un est plus en paix, il dégagera autre chose. Et du coup, pour l'environnement, ce sera quelque chose d'important aussi, que les êtres humains, peu à peu, dégagent autre chose. Et peu à peu, comme ça, il y aura une guérison collective. Ça va être peu à peu. Donc, plus nous sommes nombreux à guérir, et plus ça entraîne quelque chose en collectif, je pense aussi. Voilà.
D'accord. Très bien. J'ai vu également que tu avais monté ta maison d'édition.
Oui, ça c'est un cadeau de la vie.
D'accord.
Parce que donc ce livre Rencontre avec la splendeur et le tarot des lettres hébraïques sont sortis depuis presque une vingtaine d'années, 19 ans pour le tarot, et aux éditions Altès. Et en fait, l'éditeur est décédé. Il a fait un AVC, il est décédé peu après brutalement, en fin 2015. Et il faut savoir qu'un livre, ça appartient à l'éditeur et pas à l'auteur. C'est-à-dire que je pouvais rien faire, j'avais aucun droit. Donc d'autres éditeurs m'ont proposé d'éditer le livre, évidemment. Ils savent qu'il est, il suit son bonhomme de chemin, il est connu. Mais je ne pouvais même pas, je n'avais pas récupéré mes droits. Et c'est au bout d'un an que je me suis dit, cette fois ça suffit. Et entre-temps, ça avait évolué en moi. Et je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas ma propre maison d'édition pour être pleinement libre. Et puis aussi pour pouvoir éditer les coups de cœur des livres qui pour moi sont importants et peuvent vraiment apporter quelque chose de nouveau et de beau. Et donc voilà, j'ai plongé et donc oui, j'ai créé des éditions de l'émeraude. Pour moi, l'émeraude est un symbole alchimique parce que c'est le Graal. C'est le Graal qu'on va trouver non pas tout en haut des cieux, mais au plus profond de nous, au plus profond de la terre. Je dirais même au plus profond de la matière. Et donc j'ai pu rééditer le livre et le tarot. Et ça a été une occasion pour les revoir. Alors le livre est à peu près le même. J'ai rien touché à l'histoire du voyageur. Pratiquement pas. C'est des petits dialogues, des petites choses. J'ai un peu touché les commentaires. J'ai changé l'introduction. Le tarot est quand même assez différent. Parce que j'ai repris d'autres fichiers couleurs, voilà, et du coup le pourtour il est plus blanc, il est or, et les couleurs ont une intensité particulière. Le texte a été enrichi aussi, et je sens que l'énergie arrive autrement, les lettres arrivent d'une façon plus adaptée à aujourd'hui. Et je crois que le fait que pendant un an ils n'ont plus été diffusés, c'était vraiment l'occasion après d'un nouveau départ, une nouvelle naissance. Et je me rends bien compte, les lettres qui viennent aujourd'hui, c'est encore autre chose. Plus je suis plus la même non plus, et les gens non plus, et voilà, c'est tout un ensemble.
D'accord.
Voilà, et donc aux éditions de l'Émeraude, j'ai eu l'occasion après d'éditer un livre que j'adore qui s'appelle L'élan de votre cœur de Emao. Emao, c'est un guide spirituel qui m'a énormément apporté, qui m'apporte encore. C'est un Amérindien, un être authentique, un éveillé pourrait-on dire, qui est vraiment, il fait des danses du feu, il plonge les mains dans le feu, il baptise les gens avec le feu, et tant par les danses du feu, qui fait un grand nettoyage, et que par ses enseignements, il apporte énormément. Alors je me suis dit, celui-là, faut qu'il soit édité, c'est sûr.
Et tu le connaissais d'où?
Ah, je le connais depuis 1999, je l'ai connu par mon éditeur, qui le connaissait, et tout de suite, ça, je pense que c'est un être, c'est bien de le rencontrer une fois dans sa vie, et puis de croiser son regard, tout simplement, parce que, bon, je parle pas bien anglais, donc lui, il parle pas français, mais c'est traduit, hein, ces séminaires en France sont traduits, mais c'est quelque chose, vraiment, voilà.
Et il vient de temps en temps
Oui, il fait des tournées de fois en Europe.
D'accord.
En France, il passe à Lyon, sinon il passe en Suisse, en Allemagne, plusieurs pays d'Europe.
Ok. Et t'as d'autres projets d'édition?
Oui, là, à la fin de l'année, alors ça c'est aussi un livre qui m'a bouleversée, je t'assure, j'ai vraiment eu des larmes. C'est un livre sur les abeilles, qui s'appelle Les offrandes des abeilles. Les abeilles, dans leur dimension spirituelle, subtile. C'est pas un livre technique du tout, c'est un livre qui est traduit de l'allemand, c'est un Suisse allemand qui anime je pense que c'est un géobiologue, et il anime des stages sur ce qu'il appelle la perception suprasensible, tu vois, pour percevoir ce qui est au-delà de nos sens. Et lui, il voit les êtres élémentaires, il parle avec eux, il les ressent. Et pour ma part, en tout cas, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je peux attester de la vérité. Enfin, je ressens vraiment qu'il est bien, bien branché. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée au sujet des abeilles, sur leur importance. D'abord, Il faut dire que mon mari est apiculteur, donc oui, ça aide.
Oui.
Je connais, voilà, j'ai déjà été touchée par le monde des abeilles.
Oui.
Mais aussi, par exemple, il parle du soleil de minuit. Or, il y a une lettre hébraïque, qui est justement le soleil de minuit, la lettre Kof. Et ça correspond tout à fait, c'est très drôle. Ils disent que la reine des abeilles, en hiver, elle laisse son corps, mais son esprit va à l'intérieur de la terre. Et elle va rencontrer cette lumière du soleil interne de la terre, qui est le soleil de minuit. Le soleil, il parle même de Christ, mais ça n'a rien de religieux. Mais c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. L'importance des abeilles et des animaux en général, de ce que les animaux nous apportent. Il y a les animaux qu'on voit sur le plan sensible, sens. Et puis, il y a ce qu'ils sont à des niveaux plus subtils. Et ils sont très importants. Imagine que les animaux disparaissent, l'humanité disparaît. C'est pas possible. Ils nous apportent quelque chose. Nous avons notre rôle, nous avons notre place qui est essentielle dans cet être vivant qui est toute la Terre avec toutes ces créatures. Nous avons le libre arbitre, nous avons des responsabilités. Et les animaux ont leur place et nous apportent une aide qui est vraiment à respecter. Et quand ils sont aimés, compris et respectés, ils peuvent pleinement jouer leur rôle. Et ça, c'est un partenariat extraordinaire. Et les abeilles, parmi les animaux, ont vraiment une place que j'ai découverte et qui m'a beaucoup touchée. Et donc, je suis heureuse de publier ce livre, Les offrandes des abeilles.
D'accord, à la fin de l'année, donc.
Voilà, l'auteur s'appelle Karsten Massey. Et ça sera un chouette projet. Et puis j'ai d'autres projets. Je pense qu'il y aura d'autres livres d'Emao aussi. Mais il faut déjà qu'ils soient traduits. Voilà. Et puis si j'ai d'autres textes d'auteurs qui viennent me toucher, dont je ressente l'importance, je les publierai également.
C'est passionnant.
J'ai d'autres projets, mais je ne peux pas encore en parler tant que les contrats ne sont pas signés.
Super Marie. Eh ben merci beaucoup pour cette interview.
Mais merci à toi, je te remercie beaucoup de m'offrir cet espace et puis tous ceux qui l'entendent, voilà, je leur fais un gros bisou, un gros bisou de cœur à cœur et que ça puisse voyager, voilà.
Voilà.
Merci à toi vraiment.
Au revoir.
Au revoir.
Vous pouvez suivre Marie-Elia sur son profil Facebook, la retrouver également sur son site web www.marie-elia.com ou lui écrire à marie-elia@orange.fr. À bientôt sur bienheureusement.fr.